Le titre, c'est Mon critère de connaissance. Sur quelle base on connaît les choses aujourd'hui? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2. Est-ce qu'on connaît sur la base en se demandant si une chose est bien ou si une chose est mal? Est-ce que c'est sur cette base-là qu'on juge les choses, sur le bien et le mal? Ou est-ce que c'est sur la base de d'autres choses que le bien et le mal? Est-ce que Dieu nous demande de discerner le bien et le mal? Ou est-ce que Dieu nous demande de discerner Jésus-Christ? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Il ne dit pas de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, de discerner le bien et le mal. Il dit de discerner Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Autrement dit, mon critère de connaissance, ma base de connaissance, c'est pas de se demander si c'est bien ou si c'est mal, c'est de se demander si cela appartient à Jésus-Christ ou si cela n'appartient pas à Jésus-Christ. Est-ce que cela vient de Jésus-Christ ou est-ce que cela ne vient pas de Jésus-Christ? C'est ça mon critère de connaissance. C'est là-dessus que je dois miser ma pensée. Parce qu'il dit bien, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose. Donc, je dois miser ma pensée, non pas de savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. C'est même plus à moi à discerner ça. Non, parce que je suis soumis à Jésus-Christ. Je suis comme une épouse, puis Jésus-Christ est mon époux. Puis c'est lui qui a la responsabilité de discerner pour moi ce qui est bien et pour moi ce qui est mal. C'est à lui à le faire, c'est plus à moi. C'est plus à moi à dire... J'ai la responsabilité de savoir c'est quoi qui est bien, puis c'est quoi qui est mal, c'est quoi ce que je dois faire, c'est quoi ce que je ne dois pas faire. C'est plus à moi, c'est plus ma responsabilité. Je suis sous Jésus-Christ. Je suis comme une épouse, puis c'est lui l'époux. Puis c'est à lui à discerner pour moi ce qui est bien et ce qui est mal. C'est à lui, c'est sa job. Ma seule pensée que je dois avoir dans ma tête, dans mes pensées, est-ce que cela vient de Jésus? Est-ce que c'est mon maître qui me dit ça? Est-ce que c'est l'origine de lui? Ou est-ce que ça ne vient pas de Jésus? Ce qui vient de Jésus, je le reçois. Ce qui ne vient pas de Jésus, je ne le reçois pas. Je ne reçois que la pensée de Jésus. 1 Corinthiens 2, verset 16, ça dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » C'est un glorieux héritage. Nous avons la pensée de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je reçois la pensée de Christ. Christ lui-même, par son esprit, vient vivre en moi. Et donc, je n'ai plus à me casser la tête pour savoir si tu bien, si tu mal, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela. Je n'ai plus à me casser la tête là-dessus. J'ai à me coller à Jésus, à m'approcher de Jésus, à me tenir collé à Jésus et dire, mon maître, mon Seigneur, mon époux, est-ce que c'est ça que tu as pour moi? À recevoir la pensée de Jésus. Comment? Plus avec ma connaissance de savoir si c'est bien ou si c'est mal, c'est plus avec une question de connaissance. Ce n'est plus basé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est plus ça. C'est basé sur ma proximité avec Jésus. Je m'approche de Jésus et je reçois sa pensée. Je reçois sa vie. Je reçois sa puissance. C'est là qu'on voit la différence. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Dieu avait placé plusieurs arbres. Et il avait placé aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là. Puis il y avait l'arbre de la vie. Puis Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres dans le jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'en mangerez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Puis on voit combien cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par rapport à l'arbre de la vie qui est à côté, c'était l'image des deux alliances que Dieu allait faire avec les hommes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. C'est la première alliance, l'Ancien Testament. La loi, parce que sous la loi, c'est, on se demande toujours, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je veux faire le bien, je choisis le bien. Si tu choisis le bien, tu vas vivre. Ça, c'est la loi. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et comme Paul le dit dans Romains, la loi était bonne, mais elle m'a conduit où? À la mort. Parce que je n'étais pas capable d'obéir au bien. Je n'avais pas la capacité en dedans de moi, la force de faire le bien. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal m'a conduit où? À la mort. Parce que en dedans de moi, il n'y avait pas la capacité de faire le bien. C'est pour cela que la nouvelle alliance, c'est l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ, il me donne sa vie. Parce que si on tourne dans Genèse chapitre 3, le verset 6, on voit les propriétés qu'avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est précieux pour ouvrir l'intelligence, il est bon à manger, agréable à la vue. C'était la première alliance. Bon à manger, agréable à la vue. Elle prit de son fruit et en mangea. Voyez-vous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les effets à court terme étaient bénéfiques. Il produisait de l'intelligence, il ouvrait l'intelligence. Les effets à court terme étaient bénéfiques, mais les effets à long terme, c'était la mort. Puis ça, Dieu le savait. Puis en désobéissant, Adam et Ève se sont confrontés à la mort, parce que l'effet à long terme, c'était la mort. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on fait des tests sur des médicaments et on peut trouver des médicaments qui sont bons à court terme, qui produisent de bons effets. Mais à long terme, on se rend compte que, oups, ce médicament-là est mortel et cancérigène. Il peut entraîner la mort. C'est la même chose avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À court terme, ça semblait être bon. C'était bénéfique. Ça produisait instantanément un bon effet. Dans peu de temps, c'était un bon effet. Mais dans beaucoup de temps, après de nombreuses années, là, ça produisait la mort. Puis c'est ça l'arbre de connaissance du bien et du mal. Puis c'est pour ça que Jésus est venu, a ouvert une nouvelle alliance qui n'est plus l'arbre de connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la vie. Et en Jésus, on s'approche de lui et on reçoit la vie. Or, dans l'arbre de la vie, il y a tout ce qu'il y avait dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de la vie, en Jésus-Christ, notre intelligence s'ouvre. L'arbre de la vie est bon à manger, agréable à la vue. L'arbre de la vie a exactement les mêmes propriétés que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, excepté que lui n'entraîne pas la mort. S'approcher de Jésus, on reçoit son intelligence, on reçoit sa pensée. Ça entraîne la vie éternelle. Contrairement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que lui entraînait la mort. Si tu cherches à plaire à Dieu sous le critère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous l'arbre de la loi, si tu cherches à dire, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal? Oh, c'est sûr, à court terme, tu vas peut-être réussir à plaire à Dieu, mais à long terme, tu ne réussiras plus. Parce que en dedans de toi, tu vas rencontrer toujours le péché, la nature de péché, qui est impossible de dominer avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cette nature de péché-là va entraîner la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand tu viens sur Jésus-Christ, Jésus-Christ a déraciné la nature de péché de notre vie. C'est comme s'il a tué le péché, la racine dans sa nature même. Mais il a fait plus que ça. Ça dit qu'il a déchiré la lettre qui était contre nous. La loi, il l'a annulée. Il l'a anéantie. Il a enlevé l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que nous, on dépende seulement de l'arbre de la vie.
Mais il l'a accompli avant.
Il l'a accompli. Hébreux chapitre 10. Puis aujourd'hui, la manière qu'on peut savoir, qu'on peut comprendre, qu'on peut connaître les choses, c'est au travers de Jésus-Christ, c'est en s'approchant de Jésus. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître Jésus-Christ, il faut aussi connaître Jésus-Christ crucifié. L'apôtre Paul parle bien, pas seulement Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié aussi. Parce que Jésus-Christ crucifié, c'est la porte d'entrée. C'est au travers du sang de l'agneau que je m'approche de Jésus. Donc, pour connaître Jésus-Christ crucifié, au travers de son sang, je m'approche de lui. La seule manière de connaître aujourd'hui, c'est de connaître le sang de l'agneau. C'est au travers de Jésus-Christ crucifié, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça dit au verset 22? Approchons-nous donc. Approchons-nous. Le seul moyen de connaître, c'est de s'approcher de Jésus-Christ au travers Jésus-Christ crucifié, au travers du sang. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos purs. Il n'y a plus aucun obstacle. Au travers de Jésus-Christ crucifié, tous les obstacles sont enlevés. Le péché qui était là sous la loi, la nature de péché a été crucifiée avec Jésus-Christ. Le pouvoir de Satan a été anéanti en Jésus-Christ. Même la loi, nous ne sommes plus sous la loi, l'apôtre Paul dit. Nous sommes sous la nouvelle loi de vie, sous Jésus-Christ lui-même. C'est lui maintenant notre loi. C'est lui qui va nous dire c'est quoi qui est bien, ce qui est mal. Ça sort de sa bouche. C'est plus une règle écrite sur des tables. Ça vient de son propre cœur, ça vient de sa propre pensée. C'est par une relation avec lui. Par relation que je peux connaître. Mon maître va parler, il va me dire, lui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel chemin je dois emprunter, ce que je dois faire. C'est mon maître lui-même qui va me le dire. Mais mon seul moyen, c'est approchons-nous donc. Donc, il faut que je prenne le temps de m'approcher au travers du sang de l'agneau. Ça demande une action de ma part. S'approcher. Pour m'approcher, il faut que je m'éloigne de tout ce qui n'est pas Jésus-Christ. Comme je disais, tu as à choisir entre ce qui n'est pas Jésus-Christ. Il faut que je m'éloigne de toutes les choses du monde. Pour m'approcher de Jésus, il faut que je m'éloigne des choses du monde. Parce que je ne peux pas connaître Jésus-Christ et connaître le monde en même temps. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques qui sont catégorique là-dessus. Celui qui sera ami du monde sera ennemi de Dieu. Fait que si je m'approche de Jésus-Christ au travers de Jésus-Christ crucifié, automatiquement, il faut que je m'éloigne du monde. Il faut que je mette le monde de côté et les choses du monde de côté. Je n'ai pas le choix. C'est le choix auquel je suis proposé. Parce que l'arbre de la vie, il faut que je le mange aussi. C'est pas automatique. C'est pas quelque chose que j'ai reçu Jésus-Christ un jour dans ma vie, puis là je suis sauvé pour toujours. Ça ne marche pas comme ça. C'est à tous les jours, je m'approche de Jésus-Christ. C'est une relation que j'ai avec lui. Je reçois sa vie, je mange à sa vie, je bois à son sang. À tous les jours, pour faire ce choix-là de m'approcher, de prendre l'arbre de la vie, il faut que je fasse aussi le choix de m'éloigner des choses du monde, de prendre un temps à part des choses du monde. J'ai pas le choix. C'est ma vie en dépend. Il faut que je m'éloigne des choses du monde, que je me colle à Jésus-Christ. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Hébreux chapitre 7, le verset 11. Ça parle de l'Ancien Testament, l'Ancienne Loi. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Il parle que la nouvelle alliance s'est placée sous le sacerdoce de Melchisédek et non pas sous le sacerdoce d'Aaron, qui était l'ancienne alliance. Et Melchisédek, c'est qui notre grand Melchisédek? C'est Jésus-Christ lui-même. Melchisédek, ça veut dire Melchi, ça veut dire roi. Sédek, ça veut dire justice. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. Qui est notre roi de justice? C'est Jésus-Christ lui-même. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ descendait de la tribu, non pas la tribu de Lévi, mais descendait de la tribu de Juda. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, comme l'Ancien Testament, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Ça, c'est le sacerdoce de Jésus-Christ. C'est la puissance d'une vie impérissable. Quand tu t'approches de Jésus-Christ, tu deviens en contact avec la puissance d'une vie impérissable. C'est l'arbre de la vie. C'est une vie éternelle, une vie impérissable. C'est puissant. C'est la puissance de la vie de Dieu. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, dans le psaume 100. Dieu le Père disait ça à son fils, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, c'est-à-dire la loi, à cause de son impuissance. Okay, la loi était impuissante à nous faire faire le bien. Elle nous ordonnait de faire le bien, mais elle n'avait pas la puissance de nous faire faire le bien. Donc, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une nouvelle, d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le sang de l'agneau par lequel nous nous approchons de Christ. C'est le seul critère de connaissance que nous avons maintenant. On ne peut plus se poser en juge du bien et du mal, dire « Je suis assez grand maintenant pour savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal. Je ne serai jamais assez grand pour savoir ce qui est bien et savoir ce qui est mal. Je n'ai plus à discerner ça. Ce n'est plus mon travail. Ce n'est plus ma responsabilité. » Ma seule responsabilité, c'est de m'approcher de Jésus, de croire en son sang purificateur, son sang rédempteur, de me placer sous ce sang et de m'approcher à Jésus, puis d'attendre de lui, en contact avec lui, en relation avec lui, d'attendre sa pensée. Parce que je suis au bénéfice de sa pensée. Si Jésus ne parle plus, moi je ne fais plus rien. Parce que je suis sous lui. Il est mon maître. Il est ma source. Si Jésus ne parle pas, alors moi je ne fais rien. Si Jésus parle, j'agis, je coule sous l'Esprit de Dieu. Je suis dépendant de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Ça, c'est ma nouvelle vie. Colossiens 2, verset 14. Par sa croix, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui était cet acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'était la loi. Il a effacé la loi et qui subsistait contre nous. Remarquez bien, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pour cela qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Comprenez-vous pourquoi? La loi n'existe plus. Satan ne peut plus venir dire, tu as transgressé la loi, et il n'y en a plus de loi. Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait, qui était la loi. Parce que c'était la loi qui nous condamnait. C'est la loi qui disait, ça c'est bien, ça c'est mal, puis tu n'as pas observé ce qui est bien, donc tu es condamné. Tu vas mourir. Ça c'est la loi. Mais en Jésus-Christ, Jésus a effacé la loi, l'acte qui nous condamnait. Il a effacé ça. Parce qu'il nous a mis juste dépendants de lui. Nous sommes ses enfants. Ils sont complètement dépendants de lui. Ça dit, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il y avait un clou, puis il y avait une pancarte. Puis c'était ici, Jésus-Christ est le roi des Juifs. Puis c'était cloué à la croix. Que la loi juive était clouée à la croix aussi. Puis toute cette loi qui nous condamnait, parce qu'on ne pouvait pas faire le bien, ça a été cloué à la croix. C'est pour ça que quand nous nous approchons de Jésus, il n'y a plus rien qui peut nous condamner. Il y a rien que Jésus qui peut nous condamner, puis Jésus ne le fait pas. Parce que Jésus nous a adoptés pour ses enfants, il a payé un prix tellement élevé pour nous avoir avec lui, il va nous corriger, il va nous redresser. S'il voit quelque chose qui n'est pas à sa manière, il va nous redresser, nous corriger. Il ne nous condamnera pas, il va nous redresser, nous corriger comme ses enfants. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il peut y avoir des châtiments, mais plus de condamnation. C'est ça qui est merveilleux. C'est notre vie dépend de lui. C'est pour ça que je dois m'approcher de lui. Je dois faire le choix. Puisque ma vie dépend de lui, je n'ai pas le choix de m'approcher de lui au travers du sang. Et si je ne fais pas cela à tous les jours, si je ne m'approche pas de Jésus à tous les jours, sous le sang, où suis-je? Je suis encore dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je ne connais pas Jésus. Je ne suis pas un disciple de Jésus. Si je ne fais pas ça tous les jours, je ne suis pas un disciple de Jésus. Même si je vais en église puis je fréquente l'église, je suis encore sous la loi, sous la condamnation de la loi. Parce que je ne m'approche pas de Jésus. Comprenez-vous? C'est si important à tous les jours de m'approcher de Jésus. C'est ma base. Si je vis une journée, je passe une journée sans m'approcher de Jésus, je meurs. Je meurs. Je me coupe de la source de la vie. Et si je me coupe de cette source de vie, comment puis-je continuer à vivre? Par la loi. La loi, elle ne peut pas faire vivre. La loi, elle donne la mort. Tu auras beau essayer de faire le bien et le mal, faire un bon chrétien légaliste en faisant le bien. Tu ne peux pas vivre sans t'approcher de Jésus de tous les jours. C'est pour cela que l'apôtre Jacques est tellement catégorique quand il parle. Il dit, celui qui aime le monde, si l'amour du monde est en vous, il dit, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Il dit, celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu. Oui. Puis Dieu, il est jaloux. Puis là, il dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que vous approchiez de Dieu. Il dit, Dieu il est jaloux. Puis si tu restes loin de lui, tu suscites sa jalousie, tu suscites sa colère parce que tu te remets de nouveau sous la loi. Tu penses que par tes propres forces, tu vas pouvoir choisir le bien et le mal par tes propres forces encore. Tu es en rébellion contre Dieu si tu prends cette attitude-là. Tu restes sous l'ancienne alliance, tu restes sous la condamnation, tu restes sous la malédiction parce que tu n'es pas en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne faut jamais l'oublier. Ceux qui sont en Jésus-Christ, ça veut dire sous son sang, continuer à s'approcher de lui, toujours, toujours. Qui se collent à lui, ceux-là, qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais si tu ne colles pas en Jésus,
tous les jours,
tu es sous la condamnation. Puis l'Église est pleine de gens comme ça, qui sont sous la condamnation parce qu'ils ne s'approchent pas de Jésus.
C'est la loi.
C'est notre vie. On ne peut pas se passer de ça. Est-ce que je peux vivre une journée en regardant la télévision puis en recevant l'esprit du monde qui est à travers la télévision? La télévision, c'est l'esprit du monde. Les vidéos qui sont dans le monde, c'est l'esprit du monde. Je ne peux pas vivre sous cette ambiance-là. C'est la mort. C'est l'esprit du monde. Je dois me coller à Jésus, rester attaché à lui. Si j'ai à travailler, si j'ai à faire des choses dans ce monde, Si j'ai à user du monde, comme l'apôtre Paul dit, oui, je vais en user, mais je ne laisse pas mon cœur s'en aller dans ça. Je sais que mon cœur appartient à Jésus-Christ et je reviens. Je mets Jésus en premier dans ma vie. C'est lui que je mets en premier constamment. Chercher premièrement le royaume. Oui, il va y avoir d'autres occupations quelquefois autour. Le travail, la famille, les enfants, etc. Oui, c'est bon que je le fasse, mais en premier, c'est toujours ma relation avec Jésus. Je reviens. Ça reste la première chose de ma vie, la priorité. Ça reste la relation avec Jésus. Et avec Jésus, je peux m'occuper des autres choses aussi. Oui, je peux m'occuper des choses du monde, mais en restant attaché avec Jésus.
Amen.
Sous Jésus. Mais si je mets la priorité sur les choses du monde, si je mets la priorité sur l'argent, faire de l'argent, faire des profits, ou m'occuper des choses du monde, ou les plaisirs de ce monde,
ma vie.
Là, je perds ma vie. Là, je coupe de ma relation parce que ma priorité devient les choses du monde. Ça, je ne peux pas me permettre ça. Ma priorité doit toujours rester Jésus-Christ. Le royaume, c'est Jésus-Christ premièrement. Le royaume, c'est Jésus-Christ crucifié, puis Jésus-Christ. C'est ça, c'est le royaume. Le royaume de Dieu, quand il dit chercher premièrement le royaume, c'est me placer sous le sang de l'agneau, puis m'attacher à lui. Parce que je vis par la pensée de Jésus-Christ. Donc je m'attache à lui. Ça, c'est le royaume. Puis sous lui, le Seigneur peut me demander de faire des choses, d'user de ce monde. Mais je le fais sous lui, attaché à lui. Ça, c'est la première des choses. Galates chapitre 3. Verset 23, Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Il parle encore des deux alliances, la loi et la foi. Ainsi, la loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Puis là, il dit au verset 25, la foi étant venue, la foi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous ce précepteur qui était la loi. Nous ne sommes plus soumis à la loi. On n'a plus à se demander c'est quoi qui est bien, quoi qui est mal. On a à se demander, est-ce que cela vient de mon maître? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est l'origine de Jésus-Christ? Car ça dit bien au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. On est des fils et des filles de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Hein, revêtu Christ. On se place sous son sang. C'est comme un vêtement. On met Jésus-Christ sur nous. Et tout ce que je le fais parce que je reçois la pensée de Jésus. Je m'habille de Jésus-Christ. C'est ma vie. Je ne peux pas sortir dehors sans lui. Est-ce qu'on sort dehors sans s'être habillé? Surtout quand il fait froid comme ça. Non, on ne peut pas sortir dans le monde sans être revêtu de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ nous revêt, puis nous dit, OK, là, tu peux aller travailler, tu peux faire ceci, tu peux faire ça. D'accord, je vais le faire. Mais sous Jésus-Christ, couvert sous Jésus-Christ, puis je reviens constamment à lui. Je suis dépendant de lui. Verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre.
Ni Stéphanie.
Il n'y a plus, comme disait Yves tout à l'heure, il n'y a plus d'Africains, de Blancs, de Noirs. Il n'y a plus rien de ça. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est ça qui est merveilleux. C'est en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Il y a un nouvel héritage. La vie est là en puissance, mais elle est sous lui. Puis ça, c'est à tous les jours. Je dois apprendre à demeurer sous le sang et à revenir dans la relation que j'ai avec Jésus. Parce que ma relation dépend de lui. Tout ce que j'ai dépend de lui. J'ai à connaître Jésus-Christ. J'ai plus à connaître le bien et le mal. J'ai à connaître Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. C'est pour ça, j'ai plus à essayer de comprendre c'est quoi qui est bien, comprendre c'est quoi qui est mal. Ma tête est trop petite pour essayer de comprendre c'est quoi qui est bien, puis c'est quoi qui est mal. Mais j'ai un grand Dieu, j'ai un grand papa d'amour, qui est Jésus-Christ, qui est rempli d'amour, puis lui, comme un petit enfant qui va coller à son père, qui va dire, « Papa, il y a quelqu'un qui me veut du mal, dehors. » Tu t'en vas sous ton papa. Tu t'en vas sous lui. C'est lui qui va dire c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va te montrer quoi faire. Il va nous montrer la voie à suivre. C'est lui qui a un plan tracé pour notre vie dans tous ses détails. Alors, on n'a pas à s'inquiéter. On sait qu'on est entre ses mains. Puis que c'est lui, en Jésus-Christ, sous son sang, tout est pourvu. Alléluia. La victoire est acquise sous lui, en connaissant seulement Jésus-Christ.
Amen.
Connaissant seulement Jésus-Christ. Fait que c'est pour ça qu'Yves t'a répondu tantôt. On n'a plus à connaître c'est quoi qui est bien. Ce n'est plus notre travail, ça. C'est vraiment notre travail est de connaître Christ. On se met dans sa présence, puis on reçoit sous son sang. Puis tant que Christ n'a pas parlé, on ne peut pas rien faire. Il faut que Christ nous parle. Il va nous parler parce qu'on est ses enfants. Un père ne parle-t-il pas à ses enfants? Un père ne donne-t-il pas des bonnes choses à ses enfants quand il lui demande? Bien non. Dieu est le bon père, bien meilleur que n'importe quel homme ici bon. Fait que quand il demande, il nous le donne. S'il ne répond pas comme nous on le pense, c'est peut-être justement parce que notre âme, qui est notre pensée, ben on doit justement l'emmener à la croix elle aussi, puis la laisser mourir à la croix, parce que c'est plus avec notre pensée à nous. Fait que cette pensée-là, on l'amène à la croix, on la laisse mourir, et on reçoit la pensée de Jésus-Christ. Amen.